Et voilà, les micros sont allumés. On est toujours le 6 mai et nous avons d'autres invités dans le duplex.
Eh oui, toujours là, toujours en duplex. Salut, salut.
Et bonjour, c'est Hibou qui fait les chroniques botaniques. Je suis là en vrai, en chair et en os.
Bienvenue.
Et en plume.
Et en duplex surtout.
Toujours.
Parce que nous sommes confinés. Et du coup, Hibou, t'avais envie de prendre un peu plus de temps qu'une chronique botanique aujourd'hui.
Exactement, j'avais envie de parler du rapport qu'entretient l'humain à la nature. Alors, quand je vais parler d'humain, je vais surtout parler de l'homme occidental, moderne, issu de cette société capitaliste globalisée, du rapport qu'il entretient en fait avec la nature et son environnement. Notamment à travers une question qui pour moi est hyper symbolique, qui est vraiment un détail représentatif de ce rapport qu'on entretient avec la nature, qui est les espèces indésirables. Souvent on entend le terme d'espèces invasives, envahissantes. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors peut-être que je peux commencer par faire une petite présentation pour bien comprendre de quoi on parle.
Excuse-moi, du coup, oui. Je te coupe. Ouais, moi je suis chaud d'entendre une présentation sur les espaces invasifs et je me dis que s'il y a des gens qui veulent réagir, on peut leur donner le numéro de téléphone. C'est le 07 53 15 33 68.
En effet, comme ça, n'hésitez pas.
On est tout ouïe et on pourra t'appeler pour te contredire.
Oui, mais carrément, faites donc, j'adore ça en plus. Parce que justement, le point de vue que je vais vous exposer, qui est le mien, peut susciter un débat, en général c'est le cas. Alors, une espèce, on appelle espèce invasive des espèces qui viennent de l'étranger, qui sont bien souvent ramenées par l'homme lui-même, par son volontairement ou involontairement, mais c'est son comportement qui provoque ces venues de ces espèces, qu'elles soient animales ou végétales, et qui ont tendance à prendre une place assez prépondérante dans un écosystème dont elles ne sont pas issues. Exemple qu'on connaît bien souvent, le ragondin, qui est une espèce qui nous vient d'Amérique du Sud, qui est arrivée dans nos écosystèmes, donc notamment tout ce qui est milieu humide, étangs, rivières, etc., qui prend une place énorme parce que cette espèce-là n'a pas de prédateurs ici, hein. Il faut savoir qu'en Amérique du Sud, ses prédateurs, c'est les jaguars et les anacondas. On n'a pas trop en France, donc de fait, elles sont un peu tranquilles, très décomplexées. D'ailleurs, c'est pour ça que des ragondins, on en voit facilement parce qu'ils ont peur de rien, se reproduisent beaucoup et ont trouvé une place où il n'y avait personne à cette place-là. Ça, c'est un exemple d'espèce invasive. Après, il y a des espèces qui sont plutôt envahissantes. Envahissantes, c'est plus des espèces qui sont de chez nous, mais de par nos perturbations, qu'on peut engendrer, agriculture intensive de masse en monoculture, j'ai réussi à le placer.
Capitaliste productiviste tout à l'heure, c'est pas mal.
Voilà, voilà, non mais on va faire des petits parallèles comme ça parce que tout est lié, vous verrez, c'est assez fascinant. Et du coup, des espèces peuvent devenir envahissantes et prendre aussi une place, je sais pas, je vais prendre le. Les campagnols, les petits micro-mammifères, les souris, on va dire. Parce que les souris, elles sont de chez nous. Hein. Campagnols terrestres, c'est typiquement une espèce endémique de nos contrées. Mais avec toute cette agriculture, beaucoup de nourriture, beaucoup de grains à manger, des grands champs de blé. En plus, on bute leurs prédateurs, donc à savoir le renard, le putois, tous les mustélidés, tout ça qu'on a classé comme nuit. Il y en a plein des souris, mais ils viennent de chez nous, ils viennent pas d'ailleurs. Donc ça, c'est l'espèce plutôt envahissante.
Donc différence entre invasive et envahissante là pour l'instant.
Voilà, c'est ouais. Ça. C'est vient de l'étranger ou vient pas de l'étranger. Après, je suis pas scientifique non plus. Moi, je vulgarise les choses, donc peut-être que je fais des raccourcis qui sont pas complètement vrais, mais on va te laisser ça comme ça pour la compréhension. Et il y a des espèces qu'on choisit, qu'on appelle nuisibles. En général, elles sont classées nuisibles parce qu'elles font concurrence aux chasseurs, à la communauté des chasseurs, sur du gibier, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on classe des espèces, des prédateurs en nuisibles et qu'on décide aussi de gérer et là j'ai fait des guillemets avec mes doigts que vous avez pas vu, pour voilà, pour bah, les réguler,
on
parce
fera
que
une émission sur les doigts bientôt.
C'est pour ça, on lance des petits clins d'œil. Ah non mais et du coup voilà, donc notamment les mustélidés, les fouines, les blaireaux, etc., qu'on décide que ne conviennent pas et qu'on défonce aussi, et du coup voilà, on crée des dérèglements et ça retombe sur les histoires, j'ai dit, d'abondance de souris et tout ça. Un petit chiffre: un renard mange environ 6000 souris par an à lui tout seul. Donc un renard tué, c'est 6000 souris qui nous disent merci. Voilà. Donc après, se poser des questions.
Et un blaireau, ça mange... C'est un prédateur, un blaireau ?
Alors, c'est un opportuniste qui est omnivore. La plupart du temps, il va plutôt nettoyer les forêts, des cadavres, d'autres animaux, des fruits qui pourrissent, tout ça. Mais les chasseurs, tout ce qui ont des dents pointues faites pour manger de la viande, ça les fait chier un petit peu. Hein. Bon, je pense qu'il y en a qui m'écoutent, s'ils sont chasseurs, ils doivent dire bah, « qu'est-ce qu'ils racontent ?» Mais de fait, c'est un peu le rapport qu'on entretient avec la nature du point de vue de la chasse actuelle. Et du coup, y a des fois, on se demande pourquoi certaines espèces ont été classées nuisibles. Hein. Pendant très longtemps, on a tué les rapaces, par exemple. Avant que ce soit protégé, les rapaces, on tirait sur tous les rapaces. Pourquoi voilà, y a des oiseaux comme les cormorans qui sont protégés. On a quand même des autorisations de chasse assez énormes. Hein, un territoire comme la Brenne, par exemple, qui est une zone dans la France où il y a beaucoup d'étangs, donc beaucoup d'oiseaux et des piscicultures, etc. Vu que le cormoran impacte les piscicultures, ils ont des autorisations de tir de 3000 cormorans par an sur une espèce protégée. Et parce que ça mange du poisson.
Ouais.
Et sauf que bah, le cormoran, c'est un peu sa vie, quoi. Manger du poisson.
Ouais.
Et voilà. Donc tout ça, je voulais en parler parce que ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est le fait que déjà on définisse quelles espèces nous paraissent intéressantes ou non, qu'est-ce qu'on veut en faire, et le fait qu'on veuille gérer la nature. Mais même dans les métiers de la protection de l'environnement, de la nature, on décide d'avoir une gestion de la nature. D'ailleurs, une des formations reconnues en France s'appelle le BTS, gestion et protection de la nature. Ce mot gestion est venu là parce que l'homme pense que même pour protéger la nature, il faut la gérer. Donc on voit bien un petit peu le rapport symbolique qu'on entretient, qui n'est que l'homme est quelque chose en dehors de la nature, et il a un petit peu ce tout pouvoir qui nous vient, on pourrait dire, même d'une culture judéo-chrétienne, mais peu importe. En tout cas, on entretient ça où il faut qu'on gère les espaces. Un jardin mal entretenu, c'est un jardin plein de mauvaises herbes. Enfin, voilà, à plein de niveaux, on peut retrouver ce rapport qu'on a là. Et ce qui est intéressant dedans aussi, c'est qu'on décide vraiment de ce qu'on veut classer dans invasive ou pas, par exemple. Ah, j'ai un bon exemple, c'est la renouée du Japon, cette plante qu'on connaît, qui est arrivée, qui envahit les talus, qui envahit les jardins, les bords de champs, autour des lignes de chemin de fer, il y en a gavé, les zones humides, etc. Enfin, on a cette plante-là, et on ne sait pas comment lutter. Elle est très puissante dans notre écosystème, alors qu'au Japon, elle ne pose pas de problème. Mais chez nous, elle a trouvé une place où elle concurrence énormément de plantes. On dit qu'elle est allopathique. Dans ses racines, elle lance des toxines qui empêchent les autres plantes de pousser. Donc, en effet, elle a un pouvoir de colonisation énorme. On ne peut pas lutter contre elle. On le fait, hein. On déplace des millions d'euros par an pour essayer de lutter contre elle. Mais... elle gagne quand même, parce qu'un bout de tige fait que ça repart, enfin voilà, c'est de la folie. Mais un endroit où il y a 3 hectares de renouée du Japon, donc on dit waouh, là le milieu à côté, il peut y avoir 150 hectares de maïs.
Ouais.
Je laisse un petit silence là pour qu'on se rende compte de ce que je viens de dire. 150 hectares de maïs, une petite plante qui nous vient pas de chez nous, qui a besoin de conditions pour vivre, beaucoup d'eau, etc., beaucoup de matières riches.
De d'engrais,
exactement.
De produits phyto.
Mais celle-là, elle n'est pas invasive. Bon, on se posait des questions quand même. Et du coup, non, la bête noire, c'est la renouée du Japon qui est à côté. Alors c'est bien, ça fait aussi un bon bouc émissaire. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette lutte qu'on met en place pour lutter contre la propagation de cette espèce. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Une espèce, quand elle vient dans un milieu qu'elle va coloniser, parce que, comme j'ai expliqué, il y a la place dans l'écosystème, elle est très compétitive, elle va se développer énormément. C'est le cas du ragondin, c'est le cas de la renouée du Japon, etc. Et à un moment donné, arrivée à un stade où elle s'est beaucoup développée, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il y a régulation. La nature a des mécanismes qui lui permettent de réguler. Donc ça va être des maladies, ça va être de la famine, ça va être une espèce, des fois, sur les plantes, ça peut être une génétique pauvre, finalement, parce que la plante s'est reproduite plutôt par bouturage. Et il y a régulation et le milieu s'équilibre avec la présence de cette espèce, et même elle se naturalise. Elle fait partie intégrante maintenant de l'écosystème. Donc ça, c'est un mécanisme qu'il y a depuis l'aube des temps, c'est comme ça que fonctionne la vie. Voilà, on pourrait... Il y a plein de rapports scientifiques là-dessus.
C'est pour ça que, du coup, moi, je voulais revenir sur le truc de chez nous ou pas de chez nous. En fait, du coup, il y a énormément de choses qui... En fait, ça dépend de la date que tu choisis, mais il y a énormément de choses qui sont de chez nous et pas de chez nous, quoi. Exactement. Qui se sont naturalisées, et du coup...
Exactement, ouais. À savoir le coquelicot, le bleuet, robinier faux acacia, le châtaignier, le chêne. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont venus... c'est des êtres vivants, pardon, qui sont venus par l'homme ou pas. Hein. D'ailleurs, le chêne, par exemple, a été plutôt propagé par les animaux qui enfouissent des glands pour faire des réserves de nourriture et qui ont créé des forêts. Le jet des chênes, par exemple, c'est un oiseau qui porte bien son nom et qui a propagé cette espèce et créé des forêts de chênes. Donc là, on voit bien que l'humain n'est pas le seul à faire cette chose-là. Le coquelicot bleuet est plutôt venu dans des semences qui nous venaient de Mésopotamie, donc d'Irak et tout ça, qui sont venus chez nous en Europe de l'Ouest, qui ont sûrement eu une place un peu invasive. Hein. Je pense que le coquelicot, à l'époque, il devait y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça devait être compliqué, d'ailleurs, de faire des récoltes de céréales sans avoir du coquelicot dedans, etc. Et, bon, et maintenant, le coquelicot, ça nous manque, presque. Parce qu'il n'y en a plus. Enfin, voilà, et on voit bien que c'est l'humain qui décide finalement qu'est-ce qui lui pose problème ou pas. Mmh. Et ce que tu viens de dire, ça a soulevé quelque chose d'intéressant sur le fait que qu'est-ce qui se passe ? Ben, notre rapport qu'on a avec la nature, il est aussi d'ordre patrimonial. Ce qui nous fait peur, c'est de perdre la nature qu'on connaît. C'est pour ça que quand on fait des outils de protection, genre des réserves naturelles, on fait une espèce de mise sous cloche d'un milieu qu'on veut sauvegarder. Même s'il faut mécaniser l'entretien du milieu, je prends un exemple, une zone humide, une tourbière. Les tourbières en France, il y a, l'écosystème n'en crée plus, parce qu'on ne laisse plus l'écosystème en créer. Il faut qu'il y ait des crues sur des zones marécageuses, etc. Enfin, moi, je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent les tourbières, vous irez lire des livres. Et du coup, bah, quand on a une tourbière en France, on met une réserve naturelle dessus, on va venir l'entretenir, vu qu'il n'y a plus de crue qui va venir empêcher que les arbres poussent dessus. Une tourbière, c'est un milieu qui est évolutif, ça reste jamais dans la nature, ça finit par devenir une forêt, sauf s'il y a un mécanisme où il y a des crues, il y a des animaux qui pâturent, il y a des choses. Bah, on peut venir avec des tracteurs, je connais des réserves naturelles en France, on vient avec des tracteurs tous les ans couper les bourdaines, les bouleaux qui viennent s'installer, les saules sur ce genre de milieu, sinon ça deviendrait une forêt. Donc on voit bien qu'on essaye de garder la nature qu'on connaît. Et ça, c'est important dans ce qu'on est en train de raconter. C'est ça qui nous fait peur. C'est que moi, derrière, il y a plein de gens qui font de la protection de la nature qui me disent « Mais tu te rends pas compte, l'écrevisse américaine, elle fait disparaître un nombre d'espèces énormes. C'est ça qui nous fait mal, notamment sa concurrente directe, l'écrevisse à pattes blanches. »
Et Sanofi, alors ?
Voilà. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait parler de plein de choses qui... Mais voilà, on parle de ça, c'est ça qui est fou, on jette. Et c'est facile, en même temps ça vient de la nature, c'est aussi la peur de la nature qu'on entretient. Du coup, une espèce comme ça qui est incontrôlable, l'écrevisse américaine, terrible, incontrôlable, qui va partout, qui mange tout, qui finalement se retrouve toute seule, se mange entre elles derrière parce qu'il n'y a plus rien à manger, et transforme un étang.
Le gouvernement.
Les flics. Permet de. Et fait qu'un étang, par exemple, où on voyait de l'eau claire, qu'on avait telle espèce de poisson, il y avait des plantes, il n'y a plus rien. En effet, c'est flippant. Et c'est hyper flippant. Sauf que, on ne peut pas lutter contre ça. Déjà, c'est nous qui l'avons ramené. Maintenant, on essaie de lutter contre ça en faisant des systèmes, des outils qui coûtent cher et qui sont inefficaces au possible. Parce que l'écrevisse américaine est vraiment badass. Hein. Elle fait des choses incroyables. Et du coup, se propage dans le milieu. Et on n'accepte pas ça. On pourrait reparler là des 7 étapes du deuil où à un moment il y a l'acceptation. Bon, bah, elle est là, cette espèce. Il va bien falloir qu'on vive avec et elle va finir par se naturaliser. Et peut-être qu'on retarde l'échéance d'une naturalisation si on essaye de la réguler. Alors que plus vite on y serait, c'est un peu comme confiner les gens pendant une épidémie et attendre que tout le monde s'auto-immunise. Merde, bah, pardon, c'est sorti tout seul.
Tu sors du sujet là, je crois que c'est pas bien.
Non mais c'est voilà, je pense que symboliquement il y a plein de choses qui sont liées par rapport à cette manière qu'on a d'agir. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Après, j'aime bien donner des petits exemples, parce que les ragondins, oui, mais regarde, ça défonce les berges des rivières, c'est vrai, un ragondin.
Les centrales nucléaires aussi, ça défonce les berges des rivières.
Ouais, c'est vrai aussi. Mais bon, pareil, la centrale nucléaire, ça fait briller les ampoules, alors que le ragondin, qu'est-ce que ça fait, hein ? Le pâté de ragondin, mais bon, il n'y a pas tout le monde qui en mange. Voilà. Et en fait... Oui, bah je finis sur cet petit exemple parce que je trouve intéressant. Le ragondin, en effet, pour faire ses cavités, va creuser dans la berge, du coup, va écrouler des berges sur 3 mètres, des fois 5 mètres. C'est assez impressionnant. Mais j'ai remarqué qu'il le faisait dans les endroits où on avait coupé la ripisylve, donc les arbres qui poussent naturellement au bord d'une rivière et qui sont là pour maintenir les berges. Et ça, c'est une gestion qu'on fait, parce que c'est chiant, les arbres au bord de l'eau, ça nous empêche d'aller jusqu'au bord de la rivière, c'est chiant pour pêcher, c'est chiant, puis de toute façon, c'est des arbres, c'est chiant les arbres, donc on coupe les arbres, et après, le ragondin, il a place libre pour tout défoncer, alors que aller voir dans des endroits où il y a une ripisylve, donc cette bande arborescente, enfin bref, avec tout, hein, parce qu'il n'y a pas que des arbres là-dessus, qui tiennent la berge, bah, les ragondins font des trous. Mais ça va entre les racines des arbres, les berges sont plutôt protégées. Par exemple, observez ça dans le Marais Poitevin, beaucoup de gens qui vont l'été faire des tours de barque, vous verrez, c'est blindé de ragondins, mais il y a des ripisylves et les berges sont pas tellement effondrées. Donc ça montre qu'on a un problème de gestion de nos rivières, par exemple. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est un petit peu le... Il y en aurait plein à dire, hein. C'est un puits sans fond, cette gestion de la nature, mais...
Ouais, voilà. C'est clair. Ouais. Bah ouais, moi j'avais envie de réagir un peu avec du coup toute cette question de symbolique et de notre rapport à la nature et comment on s'est mis en maître contrôleur justement de cette nature et qu'on s'en est extrait. Du coup, je voulais juste vous lire, bon, il y a plein de bouquins qui parlent de ça, mais là j'avais juste celui-ci sous les mains de Révéler l'obscur de Starhawk, qui est, il y a une petite partie qui a été lue hier d'ailleurs par un copain. Bon, après, c'est assez simplifié et ça se discute, et voilà, mais je trouvais ça parlant. Donc, elle dit « Le retrait du contenu de la valeur sert de fondement à l'exploitation de la nature. L'historien Lynn White a affirmé que quand les esprits contenus dans les objets qui avaient auparavant protégé la nature de l'homme se sont évaporés, sous l'influence du christianisme, notamment, le monopole effectif de l'homme sur l'esprit dans ce monde a été confirmé et les vieilles inhibitions concernant l'exploitation de la nature se sont effondrées. Les forêts et les bois n'ont plus été sacrés. Le concept de bois sacré d'un esprit faisant corps avec la nature a été considéré comme idolâtre. Mais quand la nature est vide d'esprit, la forêt et les arbres ne sont plus que des troncs, des choses à mesurer en stère, valables seulement pour leur rentabilité et non plus pour leur existence ou leur beauté ou même comme partie d'un écosystème plus vaste. » Bon, après, elle fait... Elle parle de plein de choses très intéressantes, mais je vais un peu sauter. Et puis, elle reprend avec « Parce que nous doutons de notre existence, nous doutons de nos propres sensations et des leçons de notre expérience. Nous voyons nos pulsions et nos désirs comme intrinsèquement chaotiques et destructeurs, nécessitant répression et contrôle, de même que nous voyons la nature comme une force chaotique et sauvage, nécessitant un ordre imposé par les êtres humains. » Bon, voilà, après, elle parle... Bon, elle est très... Elle est très symbolique et elle parle beaucoup dans les esprits, tout ça. Mais c'est une manière intéressante de voir comment aussi, avec l'avènement de la science et du christianisme, on a complètement vidé de leur essence toute forme de nature, autant humaine que inhumaine, que non-humaine, pardon. Et qui laisse place, du coup, à une exploitation... autant du coup humaine que non humaine.
Il y a un mot qui est intéressant et qui va avec la gestion, c'est la mesure. Je pense que ça, c'est aussi pour gérer, en fait, il faut mesurer. Mmh. Et du coup, il faut mettre des chiffres, des nombres, là où, en fait, il pouvait y avoir, pour Starock, du symbolique, mmh. ou pour d'autres, juste des sensations. Et du coup, la mise en mesure du monde... Ah tiens, on pourrait lire ce passage, c'est un petit tract sur la mise en mesure du monde, qui s'appelle « Sur mesure », mais je ne l'ai pas ici. Tu voulais réagir ?
Bah ouais, je trouve ça très intéressant, c'est la lecture de ce passage, parce que si on y remet un petit peu du spirituel dans tout ça, et je sais que c'est un mot qui est un peu flippant, on se dit, parce que dans notre culture, le spirituel, ça peut connoter secte, mysticisme, hein, bref, c'est quelque chose qui nous est un petit peu éloigné, mais si on y remet justement du spirituel, comme le dit... Starhawk, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, notamment aussi, moi je vais citer un peu Carl Jung, ce psychanalyste qui a travaillé sur le symbolisme et qui a fait des liens sur la roue de médecine amérindienne qui est un outil hautement spirituel qui explique un petit peu comment... on évolue en fonction de totems animaux et de la manière qu'on a de vivre le monde qui nous entoure. Et ben Carl Jung, psychanalyste, a étudié ça et a remis sur le rapport symbolique que l'humain entretient avec les choses. Et on se rend compte qu'en fait, quand on remet de l'essence dans un arbre, un arbre, c'est autant finalement un quelque chose qu'on peut utiliser pour le bois, pour de la matière, donc il y a un rapport très matériel, mais il y a aussi un rapport symbolique. Et si les deux sont équilibrés, on est un peu en communion avec son écosystème, mais on fait attention aux choses. On fait attention à ce qui nous entoure, on est plutôt dans la mesure, on sent instinctivement quel rapport on doit entretenir avec notre environnement et qu'on n'a pas besoin d'avoir des dogmes qui nous précisent comment on doit vivre en respect avec l'environnement. C'est quelque chose qu'on vit en fait finalement, qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, de l'émotionnel et plus que de la raison. Et le problème, c'est que notre culture occidentale, elle est que dans la raison. Le reste, ça n'existe pas presque, hein. On commence un peu à reparler de comment accepter ses émotions et tout ça, mais on a une culture qui a classé les choses, qui les a décortiquées, qui est allée dans le profond. On a jusqu'à découpé jusque dans les atomes pour comprendre le fonctionnement du monde, et on est passé à côté de plein de choses. On est passé à côté des relations qu'on peut entretenir, du ressenti, etc. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui étaient très puissantes comme rapport à la nature. Prenons un exemple que vous avez tous autour de chez vous, j'en suis sûr, les arbres têtards. Vous savez, ces arbres qui ont des formes incroyables, qui sont souvent creux, encore vivants, qui ont des bourrelets dans tous les sens. On peut appeler ça des arbres de sorcières. Dans certaines régions, on appelle ça des trognes. Ces arbres de têtards, il y en a partout parce que ça vient de notre culture paysanne, française, européenne même, je pourrais dire. Donc c'est quelque chose qu'on a tous déjà croisé, en s'en rendant compte ou pas. Ces arbres têtards, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est en fait, dans cette culture paysanne, où on n'avait pas de pétrole pour faire son bois de chauffage, au lieu d'avoir des tronçonneuses, on avait des outils comme des haches et des scies. Donc on coupait les pousses des branches de l'année de l'arbre pour faire son bois de chauffage, on se chauffait avec des petits fagots plutôt que des bûches, et l'arbre, qu'est-ce qu'il faisait ? Bah, il survivait à cette coupe, à cette taille. Donc ça vient de là, arbre têtard, c'est étêté, hein, on coupe la tête de l'arbre. L'arbre va faire des bourrelets de recouvrement et de cicatrisation, il a des bourgeons cachés dans l'écorce qui sont là au cas où les bourgeons des branches n'ont pas fait le taf, il va repousser et l'arbre va continuer à vivre. Bref, on s'est rendu compte, il y a un très bon bouquin là-dessus d'ailleurs, j'ai oublié le nom de celui qui a étudié ça en France, mais sur les arbres têtards, vous pouvez avoir toutes ces informations. On se rend compte que ces arbres, on a eu un impact très positif sur eux en faisant ça. Ça prolonge leur espérance de vie de beaucoup, hein. Il y a des arbres qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années, alors que s'ils avaient poussé tout seuls pour aller atteindre le soleil le plus vite possible, faire sa vie, une belle croissance, finalement on serait mort plus tôt. On se rend compte que ces arbres, comme ils deviennent creux mais encore vivants, ils abritent beaucoup d'espèces, d'animaux, de plantes et de champignons. On se rend compte qu'en termes de biomasse, l'arbre produit plus de bois au même âge qu'un de ses congénères qu'on n'aurait jamais conduit en tétard et qu'on aurait coupé pour utiliser tout le bois. On a l'arbre qui est toujours présent, on a beaucoup plus de feuillage, enfin bref, plein d'autres choses. On a vraiment un rapport qui a été une espèce de symbiose entre l'humain et la nature. Et le paysan qui faisait ça, est-ce qu'il avait vraiment conscience de tout ça ou est-ce qu'il le faisait juste pour son activité ? Moi, je pense qu'il le faisait pour son activité. Il devait avoir quand même conscience d'avoir un rapport respectueux avec l'arbre qui lui donne ce dont il a besoin. Mais en étant complètement intégré à son écosystème, il avait une action finalement valorisante sur son milieu. Un impact positif, et c'est intéressant d'en parler parce qu'en ce moment on parle beaucoup de l'impact négatif de l'humain sur la planète, mais ça n'a pas toujours été le cas, et de fait cet exemple là pour moi le montre, et ces arbres ils sont hautement symboliques, et hautement symboliques aussi culturellement pour notre imagination, pour nos histoires, mais aussi pour le rapport qu'entretiennent entretenaient ces humains avec leur environnement. Voilà. Donc derrière on peut y mettre beaucoup de choses, et on peut parler de comment entretiennent les peuples premiers avec leur environnement, quel lien ils ont, et dedans la spiritualité est très 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 présente, très développée, même normale dans la vie de tous les jours, et on se rend compte que ces peuples là ils sont pas en train de niquer la planète comme on le fait, hein, voilà. Donc à un moment donné il y a beaucoup de questions à se poser, mais il y a des choses qu'on peut observer très simplement, se dire ah ouais, ah d'accord, ok, on voit bien qu'ils ont un lien avec leur écosystème et qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. C'est pas eux qui développent des épidémies. Voilà.
Ouais, c'est ça. Mais même au-delà du lien différent, c'est carrément une autre manière d'être dans la nature, quoi. Ça me fait penser à une histoire, bon, je l'ai pas tout à fait en tête, mais c'est une introduction dans un bouquin de Tim Ingold où il parle d'une population, je crois, de Sibérie, qui chasse des cerfs. Bon, après, c'est peut-être pas Sibérie, du coup. Mais qui, pour partir chasser les cerfs, ils vont d'abord les suivre pendant une semaine, sentir leur odeur, et ils vont se transformer en cerfs. Donc, eux, après, pour les anthropologues qui étudient ça, bien sûr, il n'y a pas de transformation physique, mais eux, ils parlent de ça vraiment comme une transformation. Donc ils se transforment en cerfs pour pouvoir comprendre comment ils sont, pour pouvoir leur dire bon voilà, maintenant je vais te tuer, et pouvoir le tuer sans lui faire, enfin voilà, en essayant de lui faire le moins de mal possible. Mais du coup c'est vraiment une autre manière d'être dans la nature, quoi.
Bah, d'ailleurs c'est intéressant parce que les peuples sibériens, mongols, etc., le chamanisme qu'ils entretiennent, j'écoutais encore une émission tout à l'heure dessus, qui parle que si on tue de la viande d'une mauvaise façon, avec agressivité, avec cruauté, avec aussi à outrance par rapport aux besoins du peuple, on met en colère les esprits de la nature et il nous arrive après des tuiles. Voilà. Et que le chaman doit s'occuper d'aider à réparer ce genre de lien. Alors, on peut être frileux à se dire « Oui, bah, attends, le monde des esprits, tout ça, moi, ça me parle pas trop. » Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi nous, on pourrait pas quand même prendre les choses sous cet angle-là, sans y mettre du chamanisme, sans y mettre de la transe, d'aller dans le monde des esprits, mais juste se dire « Bah oui, en effet, quand on a un rapport, eux, s'ils ont un rapport comme ça avec la nature et qu'ils vivent, grâce à ça, être les choses se passent bien, et que nous, on voit bien, enfin, je veux dire, en ouvrant les yeux, on voit bien que là, en ce moment, tout part en couille, on commence à avoir des impacts de ça, qu'il y a 10 ans, on ne sentait pas encore, mais là, ça fait quelques années, je pense qu'on les sent bien sur la tronche, et ce qu'on est en train de vivre, ça fait partie de ces impacts, on peut y croire ou ne pas y croire, mais c'est un fait, et tout ça résonne avec le rapport qu'on a avec la nature, je veux dire, manger de la viande qui a été... élevé, tu es cruauté, on fait que ça, hein. Toute la viande qu'on mange, c'est ce rapport qu'on a avec. Et si on voit eux dans les cultures comment ils voient ces choses-là, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions, qu'on croit aux esprits ou pas. Il y a de quoi se poser vraiment des questions. Et ces impacts, ils sont mesurables. On le sait que ces élevages intensifs de bétail ont un impact sur la planète, sur l'environnement, sur la pollution, et de fait sur nous. Parce que c'est pas le tout de polluer un écosystème, c'est aussi que nous, ça finit par nous polluer. Bah voilà,
se rendre compte qu'on fait entièrement partie de cet écosystème.
Exactement. Exactement. Et que les écosystèmes affaiblis sont fragiles, sont d'une fragilité énorme. Et on ne se rend pas compte à quel point notre culture qu'on est en train de mener comme ça, elle est fragile. Parce qu'on la vit, on se dit, ben non, ça va, on est encore les plus forts, on a des solutions. Sauf que cette civilisation, elle a quoi comme existence ? 50 ans ? 70 ans ? C'est un battement de cils sur l'échelle de l'humanité. Et si on n'est pas capable de se rendre un petit peu avec humilité sur le fait que bah non, on fragilise notre civilisation, bah ça va nous tomber sur la tronche encore plus que ce qu'on est en train de vivre. Et là, on est parti de loin, parce que la discussion était sur les espèces invasives. Mais là, Edith, c'est hyper symbolique tout ça. On peut aller partout, dans tous les sens. Tout a un rapport.
Est-ce qu'on se passerait pas un morceau ?
Ouais, grave.
Allez.
Ouais. Alors moi, j'hésite avec Titine du film de Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, et Les Doors, Alabama Song.
Ah, bah, je voterai plus pour Alabama Song, moi.
Allez, c'est Tipa.
Allez.